drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, ils sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, beaucoup comme moi se souviennent de cette soirée au TNT à Toulouse, où nous avons eu le plaisir de voir les aiguiseurs de couteaux de Serge Peille. Serge Peille qui publie son anthologie des textes flamenco autour de la danseuse La Joselito. Ce livre s'appelle « Flamenco, les souliers de la Joselito » par Serge Peille. Il s'agit des éditions Les Fondeurs de Briques avec l'édition du dernier télégramme donc, qui se sont réunis pour nous livrer cette anthologie. Alors, c'est une anthologie qui est un gros livre magnifique et qui ne vous coûtera que 22 euros. Alors, ce livre va contenir l'échange des noms, la lettre à Martin Elizondo, les aiguiseurs de couteaux dont je parlais tout à l'heure, Coplace infini pour les hommes taureaux du dimanche, la dialectique du compas et photo de la voix pour 50 cantaores. Serge Peille, vous le savez, est bien connu à Toulouse, où il a marqué notre ville de cette passion de la poésie. Il est né en 1950 dans une famille ouvrière du quartier de la Cité de l'Hers à Toulouse. C'est un enfant de l'immigration de la guerre civile espagnole. Son adolescence libertaire fut traversée par la lutte antifranquiste et les mouvements révolutionnaires qui secouèrent la planète. C'est un militant contre la guerre du Vietnam et il participa activement aux événements de mai et de juin 1968. Parallèlement à son engagement politique, il découvrit très tôt la poésie et les voies de fondation qui transformèrent sa vie. De Lorca à Whitman, de Machado à Rimbaud, de Villon à Baudelaire, de Yanis Ritsots à Ilitis, d'Alfred Jarry à Tristan Tzara, des troubadours à Antonin Artaud, des poésies chamaniques à celle des poésies visuelles et dadaïstes, il commence alors la traversée d'une histoire de la poésie contre la dominance française des écritures de son époque. C'est au début des années 70 que Serge Peille inaugure son travail de poésie d'action et expérimente, dans toutes ses formes, l'espace oral de la poésie. En 1975, il fonde la revue Émeute, puis, en 1981, les éditions Tribu. Coopérative d'édition à la distribution nomade, Tribu a publié sous sa direction des auteurs comme Bernard Mancier, Jean-Luc Parent, Gaston Puel, Raphaël Alberti, Dominique Fangong-Tien, le sixième Dalai Lama, Allen Ginsberg, Ernesto Cardenal, Armand Gatti. Il fut l'éditeur de Jaroslav Seifert, prix Nobel de littérature en 1984. Je rappelle d'ailleurs que nous avions fait une émission de poésie sur cet auteur, plusieurs même. Dans les funambules de Prague, réalisé avec son ami Karel Bartosek, il donna à lire en France des auteurs comme le philosophe Karel Kosik ou Václav Havel. Maître de conférence à l'université Toulouse-Le Mireuil, maintenant Toulouse-Jean Jaurès, Serge Peille dirige le séminaire de poésie d'action du CIAM, Centre international d'animation artistique. Créateur de situations, il rédige ses textes sur des bâtons. Vous pouvez voir ces bâtons en particulier à l'entrée de la médiathèque José Cabanis à Toulouse ou tout simplement à la maison de l'Occitanie, avec lesquels il réalise ses sensions, ses performances et les rituels de ses installations. C'est un poète de la rupture des frontières de l'art, il est plasticien, théoricien, il est critique et il explore les phénomènes de ritualisation du langage dans la pratique orale du poème. Donc à lire cette anthologie des textes flamenco de Serge Peille autour de la danseuse qui habitait Toulouse et dont également notre amie Monique Lys-Cohen a beaucoup parlé et il a écrit également sur la Joselito qui continue à danser à plus de 80 ans. Donc nous aurons le plaisir de reparler bien entendu de cette publication, j'espère d'ailleurs avec l'auteur, sinon nous lirons certains textes de cette énorme anthologie, puisque là je vous dis, il y a plusieurs recueils. Voilà, donc Serge Peille, Flamenco, les souliers de la Joselito. Alors comme autre annonce, je voudrais rappeler... même si je l'ai peut-être déjà fait, le dernier livre de poésie de Michel Cozem dans la collection Témoignages poétiques de l'Harmattan, avec un avant-propos de Jacqueline Saint-Jean, Les mots de la lune ronde. Donc c'est un recueil, très, très beau livre également, bien mis en page, qui vous coûtera 13 euros, donc un prix tout à fait raisonnable pour une présentation véritablement très soignée. Alors on va retrouver là, on va retrouver ce que dit Jacqueline Saint-Jean, on va retrouver tout Michel Cozem. Michel Cozem, vous savez qui est originaire, c'est un Occitan, il est du sud de la France, il a fait... ses études supérieures à Toulouse en particulier, ce que l'on sait moins, c'est que c'est un ancien élève de sciences politiques à Toulouse. Et il écrit des romans et des poèmes depuis toujours. Il a publié de nombreux ouvrages, des romans, on ne les compte plus, ses romans, beaucoup de poèmes, beaucoup d'anthologies, et il consacre sa vie en définitive à l'écriture, au voyage. Il rentre là, il y a peu de temps, d'un voyage en Camargue, et à la lecture et aux rencontres avec ses lecteurs un peu partout, en France et à l'étranger. Voilà ce que disait Jacqueline Saint-Jean. Chaque prose capte ici un lieu, poète du lieu si l'année, Michel Cozem, un instant, saisi dans leur vérité et leur mystère, une attention bienveillante et songeuse recrée chaque microcosme par le prisme des sensations vives, la saisie de détails justes, la focalisation finale sur un gros plan. Voilà ce que dit en résumé Jacqueline Saint-Jean. Les oiseaux m'accompagnent, ils peuplent les grandes étendues de l'imaginaire, mes pays de naissance. Ils sont toujours là où je suis et entretiennent mon dialogue avec la terre. J'ai toujours un chant de colombe dans la tête. Je sais les malices des moinodes et je ne puis oublier ce rossignol qui, du haut de son grand pin, m'observe tout l'été. Que ferais-je d'un monde sans oiseaux? Les chatons dorés sont venus durant la nuit dans l'entrelac des branches et la gorge des épines, dire le souffle tiède revenu. On aperçoit dans la neige les sentiers secrets sur le flanc des montagnes ouvertes aux quatre vents. Il pleut encore malgré tout sur les terres basses et on s'étonne d'y voir mai et septembre se tenir la main en dansant pour la saison nouvelle, pour des récoltes ambrées, pour le sucre au bord des lèvres et quelques reflets de flammes dans les yeux. Elle avait le nez piqueté comme un œuf. Ses seins aussi, et elle riait de se savoir convoiter, comme on convoite une colline rouge où poussent des prunes sucrées. Sa main dans ma main ne pesait pas plus lourd qu'un oiseau. Elle faisait semblant de tout savoir. Était-ce dans un livre? Était-ce hier? Était-ce dans une autre vie et pourquoi pas demain? Qu'est-ce qui pousse ainsi les oiseaux au bord des toits sous le ciel gris? La simple tristesse d'être le soir venu? De n'avoir plus de rouge, plus de bleu dans la tête? De n'être plus aussi léger? Est-ce le silence ou ce souffle palpable qui entoure la nudité? Ou le trop grand bruit de la déroute et de la chasse? Est-ce encore ce cri nocturne qui fait battre tous les affolements? Nul ne le sait, mais l'on s'en étonne toujours autant. Où est le monde? Est-ce lui, ce soir, qui pleure avec un violon de cigane et qui renouvelle toutes les espérances et la douceur des amours? Est-ce lui qui écrit l'étrange maison sauvage qui palpite des paupières et répond avec menace? Est-ce lui qui chemine tel témoin sur les sentiers de fortune et qui donne au silence la vraie soie des oiseaux? Nul ne sait, mais toutes les réponses sont possibles. La lumière ce matin est venue en sautillant. Elle fait rire malgré elle les tiges de l'hiver et les grosses touffes de chardon. Elle retourne les mottes à la recherche d'un trésor et donne aux oiseaux des jabots de printemps. Elle traverse l'arbre encore endormi avec la fantaisie des fillettes conquises. Elle glisse doucement sur la fourrure d'un blaireau avec qui elle aimerait tant dormir. En tout cas, elle sera au rendez-vous de midi moins le quart. Où ai-je déjà rencontré ce visage doux, ses yeux clairs et tranquilles, ses fines épaules, ce petit accent qui dit plus que les mots, ses lèvres comme des pétales et ses jambes de petit jour? Dans quelle vie? Dans quel rêve? Était-ce lorsque j'étais le loup, oiseau ou simple vagabond? Sur quelle ligne imaginaire? Sur un chemin de laine entre pluie et neige, juste au passage de la mémoire, où l'ai-je rencontré? Les premières aubépines blanches sur buisson noir évoquent la destinée humaine, le rire et l'insouciance, mais aussi la souffrance, le saccage, l'esclavage. Les aubépines ce matin soulignent l'humaine nature et rendent tragique l'ultime vol du bouvreuil avant le piège, le bond du chevreuil avant le plomb. Voilà, les mots de la lune ronde de Michel Cousin aux éditions L'Harmattan. Alors, on y retrouve bien entendu cette fascination de la nature. On voit vraiment que Michel Cousin, il est dans la nature comme un poisson dans l'eau, qu'il a besoin des oiseaux, des plantes. C'est un poète de la quiétude et de la nature. Mais dans ce livre, les mots de la lune ronde, j'ai perçu peut-être deux choses, peut-être une gravité un peu accentuée par rapport aux autres livres, et il me semble qu'il sourde un petit peu d'inquiétude dans ses poèmes, où il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de points d'interrogation. Donc, on s'interroge. Et puis, pour une fois, je trouve qu'il y a également, dans ce livre, il y a pas mal de pointes d'érotisme. Hein, Michel Cousin. Michel Cousin, les mots de la lune ronde, à l'Harmattan, 13 euros. Et puis, je voudrais revenir rapidement, puisque j'espère avoir la possibilité de pouvoir inviter ici les auteurs de ces livres. Il s'agit de Simone Allier-Daran, je ne manquerai pas de l'inviter. Je voudrais dire combien j'ai aimé ces dialogues d'outre-nuages, cette poésie qu'elle a fait paraître à Copie Média, que vous pouvez vous procurer en écrivant par messagerie, donc à Dara Mali, daramalie@free.fr, daramalie@free.fr, pour commander ce livre qui vaut 12 euros, Dialogue d'outre-nuages, dont nous reparlerons bien sûr avec l'intéressé. Mais d'ores et déjà, je dois dire combien ce livre me semble être le livre de la grande maturité poétique de Simone Allier-Daran. Le fleuve bouge vertical, inondant de sa mélancolie grise les traces des hoches-queues bondissant sur les cailloux gelés. Je griffonne le miroir au saut buccaux de rêves éclatés, rayures répétées par un ciseau têtu qui retourne toujours par où il est venu et se noie à l'envers de l'univers griffonné. Au-dessus de cuisses labourées, reconstruites à l'envie de peau cellulitique, une erreur de meurtrissure, un pubis cresseux, incongru et le plein de seins lourds qui ont depuis longtemps oublié à quoi ils servaient, le sang forme, le boursouflé, les muscles réduits à des souvenirs perdus qui vivent dans nos peaux et frissonnent encore. Malgré tout, un vent de palme glisse sur les pousses vertes des pins duveteux où sont mes yeux passés, qui brillaient de vous voir, vous, mes hommes enchantés, dont les arpèges sont gravés comme une dent incluse, sournoisement pulsatile dans une eau ressuscitante. Donne au vent qui passe toutes tes vieilles peurs, tes branches dépecées, tes amours sont là, qui te tiennent la main, se posent sur ton cou et effleurent tes lèvres le soir. Je creuse pour toi les rigoles et remplis d'eau les montagnes. Aime-moi toujours. Simone Allier-Daran, Dialogue d'outre-nuages. Des poèmes d'une grande nostalgie, mais d'une grande maturité de langage. l'émotion est là, mais le travail de l'écriture est là aussi. Je dors sans rêve. J'ai oublié tous les printemps, rembobinés, pacte impossible, imaginaire incohérent, insoutenable angoisse. Heureusement, dans les nuages, on ira oublier tous nos souvenirs. Je m'ennuie devant les chaises vides. Je zoome sur des gestes en voie d'oubli, gestes sans odeur, sans contact, idées sans épaisseur, le souvenir est sans yeux, le souvenir ne sait plus. Numérique sur fond noir, tu sentais le bébé. Et je balayais mes lèvres sur ta peau douce. Alcool de ma vie, je me dilue sur une image vide. D'être dormante, dans le fond de casiers inconnus, mots empoussiérés, mémoire fuyante, âme sans corps, souvenirs fabriqués, imprimés dans nos fibres, où sont ces mots cachés? À nous tous adressés bien avant que de vivre, tissés de nos envies, tissés dans nos mémoires vides. Simone Allier-Daran, dialogue d'outre-nuages, poésie. À commander donc cette copie média et à commander à daramali@free.fr pour la somme de 12 euros. Simone Allier-Daran, qui est maître S-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Et puis je veux revenir sur une publication également, c'est le 463e numéro d'Encre Vive qui est consacré à Monique, tout à propos de ces merveilles, avec des illustrations, dont des gravures de corps de femmes nues de l'auteur. Je vous lis quelques extraits. Art de vivre. L'équilibre de la tendresse compense à peu près l'inquiétude de la détresse. Mars en sa lumière, offerte de nouveau, plaide l'inverse de l'abandon. Le soleil, frais et clair, nous assiste, armant le paysage des contrastes de sa clarté vive. Le fleuve étale, lumineux sous l'azur, qui est entre ses berges immobiles, se porte garant de notre continuité. Nous rassemblons en l'esprit tout à propos de ces merveilles à l'instant, afin de créer sans cesse le subtil équilibre de la tendresse, l'art de vivre et son œuvre exquise. Duvet adolescent. Le paysage soudain s'oublie dans le gris, dans le froid. La saison vacille entre son passé et notre attente. Nous recroquevillons dans nos laines, sur les peupliers de l'allée, dans la vallée dense, vert sombre, les boules de gui. Les bourgeons se crispent sous leur armure, quelques pruneliers timides déjà fleurissent. Les branches ici ou là se couvrent d'un duvet adolescent. La promesse se tient en suspens. Nous nous ouvrons à l'acquiescement. Au sein de l'éclat. Le voyage de la lumière, la limpidité de l'azur tient à la minutie de l'ombre dans le secret menu de la feuillée. Chaque forme trempe son être à cette source, ce mystère est né au jour clair. Radieuse, chaque silhouette se distingue dans la multitude des singularités. Il s'ensuit, au sein de l'éclat, un murmure heureux, polyphonie de conciliabules. La chair du monde et de notre être, chant de l'intensité claire. Utopie qui respire. La paix, vaste et féconde, synonyme de plénitude, s'atteint sur l'axe vertical de l'utopie qui respire, puissant comme un arbre, en nous son souffle, sa sève, tandis que s'étire le fleuve, lisse sous le soleil et apprivoisant le ciel sur le défi de sa lenteur. Durant les dernières journées de l'été, il faut savoir rassembler les raisons cachées de la joie, l'infatigable énergie où s'enracine l'arbre du souffle. Anne-Monique, tout l'à-propos de ces merveilles à Ancrevive. Le numéro vaut 6,10 €, et puis vous pouvez vous abonner à cette revue pour avoir l'ensemble de ces recueils, 12 recueils par an, donc 34 € à adresser à Michel Cosem, 2 allées des Allobroges, 31 770 à Colomiers. Et enfin, je voudrais en terminer par, ce sera juste une évocation, je reviendrai également sur cette belle publication de Léon Bralda, La Voix Levée, aux éditions Alcyone. Léon Bralda, qui est un jeune né à Béziers en 1963, il est agrégé d'art plastique et docteur en esthétique, sciences de l'art, il est enseignant à l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Clermont-Ferrand. Alors il a fait paraître ses éditions Alcyone, La Voix Levée, et il est des saisons qui durent à jamais dans l'enchevêtrement des désirs et des rêves, des saisons qui reviennent inexorablement aux lèvres du poète. La Voix Levée, un chant qui porte au sud, en terre-mère, en ce lieu où l'enfance a frayé, parmi les vignes et les vergers, au pied des grands immeubles, l'enfant fait cicatrice de tout ce qui advient, et le poète écrit, je le cite, je garde en moi cette voix souveraine où les tours ont gravi l'ombre du souvenir, où les passants ont un front noir pour parler au matin. Noir, comme pour enfanter l'orage derrière la saison chaude. Le ciel aura conquis ses myriades de plumes avec du vent offert à la rumeur du monde. J'aime l'instable mélopée des tentures de lin et de coton tissés, leur âme jaune, prenant dans le déni des murs chaulés, assommés de lumière et de mélancolie, le froissement discret des vitres qui donnaient l'heure au chat quand la faim appelait. Ma fille, c'est cela même qui construit les pontons au large de ma mémoire, avec du feu et de la pierre, de l'eau et des paupières, rivées à la saison des plaies. La Voix Levée de Léon Bralda. Alors, très bien illustré, magnifiquement illustré. C'est un véritable livre d'art. Hein. Ça coûte 17 €. Mais c'est un livre hyper agréable, justement, par ses illustrations. Alors, il y a une citation de notre ami Alain Frêche. Tu peux lever les yeux, le ciel te ressemble. Tu peux lever les yeux, le ciel te ressemble. C'est pas beau, ça? C'est Alain Frêche qui dit ça dans Les Ramasses. Ça a été publié à l'Armoury en 2007. Et puis il a repris Thierry Renard aussi. J'ai seulement parlé la langue des blessures, des mensonges ou des illusions. Thierry Renard. Ce livre est dédié à sa fille cadette, Romane. Je vais vous lire quelques extraits. Étrange. Il éclairait sans fin la mémoire des autres, creusait à l'infini les sillons de l'orage par un jour retourné à la mesure de la nuit. Demain serait de mort venue jusqu'à la gorge, sans qu'on n'y puisse rien. Cri creusant le fer des croisillons à la fenêtre de l'enfance, en cette terre engrossée par le chagrin des pierres, un temps lépreux, ébauchait les façades d'une maison natale. J'aime ce fruit bas qui demeure en ces lieux, dans l'appétence d'un champ d'ombre cousu de cerisier. Cela même qu'il nous reste du temps, quand l'enfant a battu sa terre de jeunesse, qu'il ferait dans l'espace fragile de l'imagination, qui vient fouiller les rêves, habiter le regard, en sa vue, retourner. Léon Bralda, La Voix Levée, aux éditions Alcyone. Et puis dans les 20 minutes qui nous restent, je veux absolument évoquer une figure disparue J'espère qu'elle ne disparaîtra pas vite, quand même, des mémoires. Et nous sommes là pour cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité en poésie, certes. Les livres dont j'ai parlé viennent de sortir, on peut dire que c'est l'actualité, mais c'est bien que la poésie, c'est ce qui va rester. Et donc, que l'on puisse parler de ce qui vient de paraître maintenant, de ce qui est paru il y a 20 ans ou 25 ans, ou 10 ans, n'a pas d'importance. Je voudrais finir sur une femme poète d'Amérique. J'ai traité il y a peu de temps poète allemand, Hans Magnus Enzensberger. Je voudrais effectivement parler un petit peu de cette Amérique qui n'est pas trop connue non plus. Hein. Il ne faut pas croire que l'Amérique n'est que l'Amérique de Donald Trump. Je voudrais parler de l'Amérique de Marianne Moore. Alors, elle remonte à loin, Marianne Moore, puisque elle est née au 19e siècle. Elle est née en 1887, mais elle est morte en 1972. Donc, on l'a appelée Marianne Moore, la poète des poètes, parmi la génération des poètes modernes américains. Elle a été éditrice du magazine The Dial pendant des années et elle a été également, Marianne Moore, récompensée par les prix les plus prestigieux. Mais elle n'avait malheureusement pas fait souvent l'objet de traductions françaises, à l'exception de quelques poèmes en revue, et il y a eu un choix de poèmes qui avaient été édités en 1964 par Segers, et puis c'est José Corti, encore lui, hein, on dira jamais autant de bien de cet éditeur, hein, José Corti, qui a fait paraître Poésie complète, Licornes et Sabliers. Voilà, je ne sais plus en quelle année. Alors, selon Marianne Moore, la poésie se doit de créer ce qu'elle appelle une place pour l'authentique. Alors, quand elle parle, elle, de l'authentique, il n'y a pas eu ce déferlement de gens, en particulier les publicitaires, qui ont complètement galvaudé le mot. Donc il faut voir ce mot dans son sens véritablement originel. Et cette force qu'avait ce mot quand Marianne Moore l'employait, une place pour l'authentique, c'est ça la place de la poésie, qui ne peut se trouver que dans le monde et non dans l'individu. Raison pour laquelle le public, habitué à une poésie qui était plus directement accessible parce que personnelle et intimiste, a pu être durablement dérouté par cette écriture qui est une écriture toute en technique, en intellectualisme, en esprit, dont le fini fascinait ses pairs. Marianne Moore entend pousser le lecteur à accepter la relation entre grand et petit, entre animé et inanimé, entre idéal et objet. Dans la lignée de Erza Pound et de T.S. Eliot, elle fait de l'art avec de l'art, que ce soit à partir d'objets rares et précieux, de gravures ou de miniatures, d'animaux étranges ou fabuleux, elle a recours à des rapprochements en apparence incongrus, et qui pourtant, par le subterfuge de son écriture, s'impose comme une évidence. J'en profite pour rappeler que Georges Mayols disait qu'effectivement, les plus grands avaient démontré que l'image la plus forte en poésie venait lorsque le rapprochement était le plus inattendu possible. Ce qui est le cas chez Marianne Moore. Alors l'introduction d'un humour vivace et éclairé contribue à l'équilibre précaire du poème chez Marianne Moore, et qui menace à tout moment de s'effondrer, et qui au contraire affiche une miraculeuse solidité à la manière de l'improbable pont suspendu de Brooklyn. Elle habitait Brooklyn. Étudiante, Marianne Moore présenter la création poétique comme l'art de créer des bijoux imaginaires dans des forêts imaginaires. Quelques années plus tard, et l'évolution significative et instructive, elle concevra la poésie comme, je la cite, un jardin imaginaire avec de vrais crapauds dedans. Alors ceci, c'est extrait de la présentation de Thierry Gilleboeuf qui a traduit ses poésies complètes, dont Licorne et sablier de Marianne Moore. Alors, quelques mots peut-être sur ce qu'elle dit. Je la cite, Marianne Moore, voici ce qu'elle dit. Je suis né dans le Missouri en 1887. J'ai été diplômé de Bryn Mawr en 1909 et je vis à Brooklyn dans un immeuble de 6 étages en briques jaunes et en pierre à chaux dans un lieu connu sous le nom de La Colline. Mes loisirs sont le théâtre, le tennis, la navigation, la lecture et le cinéma, des documentaires animaliers, des documentaires touristiques, de temps à autre, un film français et les actualités. Plus loin, elle dit, je travaille mieux le matin, mais il m'arrive de poursuivre rarement l'après-midi et le soir. Je me sers très peu d'un bureau. J'écris sur un bloc ou un portfolio. À mes yeux, je me fais l'effet d'une observatrice, un plumitif intéressé plutôt qu'un auteur. Mais je suis une extrémiste en ce qui concerne l'affirmation précise. On a dit de moi que j'avais dit « j'écris des exercices de composition ». Peut-être ai-je dit « je considère mes vers comme des exercices de composition ». Quand j'ai fini une chose, c'est pour autant que je sache la dernière chose que j'écrirai. Mais si ce qui me charme ou m'émeut me fait l'oublier, je puis la réécrire. C'est un coup dur pour moi qu'il y ait dans le monde peu de vrais ennemis de l'esclavage et que certains d'entre eux soient des généraux. Le général Eisenhower, le général MacArthur et le général de Tassigny, on en prend pour notre grade, hein, vous voyez, qu'il y ait peu d'hommes à la sagesse socratique parmi nous, comme le professeur McMurray, le professeur Niebuhr, le professeur Hawking, que peu de vrais artistes soient vivants aujourd'hui, Casals, Soledad, McKnight, Koffer, Hans Mardersteig, Alec Guinness, les cavaliers de Lipizza. Voilà ce que elle disait. Peut-être finir sur les derniers commentaires de son traducteur, ou peut-être aussi sur ce qu'elle avait répondu à cet anti-questionnaire de Proust. Alors, ligne de travail, elle répond à écrire. Mais que préfère-vous faire pareil? Ressort principal, être utile en faisant une sorte de travail que j'aimerais faire, même si je n'étais pas payé pour le faire. Ça me semblait très important. Être utile en faisant une sorte de travail que j'aimerais faire, même si je n'étais pas payé pour le faire. Voilà. Et j'avoue que je reprends cette formule. Elle me semble être excellente. En tout cas, je l'ai reprise à mon compte. Qualité la plus paradoxale, aimer passer inaperçu, mais de belle apparence. Défaut de cuirasse, ressent l'injustice faite aux autres et à moi-même. Panacité personnelle, Dieu et la famille. Superstition rituelle, je suspends des choses au bouton de porte ou marche avec insouciance sous des échelles, mais je ne coupe pas d'agrafe noire sur une robe blanche. Voilà. Et puis dans la tentation suprême, elle indique « subjuguer et ne pas persévérer ». Voilà, nous allons écouter Marianne Moore dans les minutes. Alors, poésie. Écoutez bien, poésie. Moi aussi, je la déteste. En la lisant, cependant, avec un parfait mépris, on y découvre, après tout, une place pour l'authentique. Littérateur P. pédantesque. La pendeloque du prince Rupert, le fantôme de Papy Mousseline. La torche blanche avait le pouvoir de dire des choses méchantes avec gentillesse et les choses les plus irritantes au cœur de l'amour et des larmes. Tu invites à la destruction. Tu es comme l'homme méditatif au cœur superficiel, sa cordialité ciselée couvée de ci, de là, au début comme une immuable production incrustée et royale. Puis par la suite, délaissé au point d'un être douloureux, le dupant avec un hiératisme musardeur, faisant son devoir sans en avoir l'air, présentant une obstruction au motif qu'il servait. Ce qui tenait debout en toi, cet étiolé. Un petit palmier de bois tourné renseigne ton cœur jadis spontané dans son immuable production. New York. La romance du sauvage. Agrégé là où nous avons besoin d'espace pour le commerce. Le centre de la vente en gros de fourrure, étoilé de tipis d'hermine et peuplé de renards. Les poils de garde de 2 pouces de long ondulant sur le cuir, le sol jonché, ici et là, de peaux de biche, blanches avec des taches blanches, comme des travaux d'aiguille en satin monochrome, peuvent composer motifs variés, et un duvet d'aigle, flétri, resserré par le vent, et des barges de peaux de castor, les blanches qu'avive la neige. C'est un cri lointain de la reine couverte de bijoux, et le galant avec le manchon du carrosse doré en forme de bouteille de parfum à la jonction du Monongahela et de l'Allegheny. Et la philosophie scolastique du désert, ce n'est pas l'extérieur du roman de gare, les chutes du Niagara, les chevaux calicots et le canoë de guerre. Ce n'est pas que si la fourrure n'est pas plus belle que celle qu'on voit d'autres porter, on s'en passerait bien. Qu'évaluer en viande crue et en baie, nous pourrions nourrir l'univers. Ce n'est pas l'atmosphère de l'ingéniosité, les peaux de loutre, de castor, de puma, sans armes à feu ni chien. Ce n'est pas le butin, mais l'accessibilité à l'expérience. Que sont les années? Quelle est notre innocence? Quelle est notre culpabilité? Toutes deux sont nues, aucune n'est sûre. Et d'où vient le courage? La question sans réponse, le doute résolu, appelant muettement, écoutant sourdement, qui, dans l'infortune, voire même la mort, encourage les autres et, dans la défaite, exhorte l'âme à être forte. Il va loin, est heureux, celui qui accède à la mortalité et dans son emprisonnement se lève comme la mer dans un abîme, luttant pour être libre et incapable de l'être, qui dans sa reddition trouve sa continuité. Ainsi se comporte celui qui ressent avec vigueur. L'oiseau, que son chant fait grandir, redresse complètement son corps. Bien qu'il soit captif, son chant puissant dit que la satisfaction est une chose humble, que la joie est une chose pure. C'est cela la mortalité. C'est cela l'éternité. En en se méfiant des mérites. Enhardi à vivre, enhardi à mourir, pour des médailles et des victoires positionnées, ils combattent, encore et toujours contre, l'aveugle dont ils pensent qu'ils voient, qui ne peut voir que l'esclavagiste est asservi, le haineux souillé, ô étoile brillante et ferme, ô océan tumultueux, flagellé jusqu'à ce que les petites choses aillent comme ils veulent, la vague montagneuse nous fait, à nous qui regardons, connaître les profondeurs. Perdu en mer avant de se battre, ô étoile de David, étoile de Bethléem, ô lion impérial noir du Seigneur, emblème d'un monde ressuscité, sois enfin atteinte, sois atteinte. Il y a la couronne de la haine, sous laquelle tout est mort. Il y a celle de l'amour, sous laquelle nul n'est roi. Les actions bénies bénissent le halo. De même que la contagion de la maladie fait la maladie, la contagion de la confiance peut faire la confiance. Ils luttent dans les déserts et les cavernes, un par un, en bataillon et en escadron. Ils luttent pour que je puisse reprendre à la maladie mon être. D'aucuns sont atteints légèrement, d'autres mourront. L'homme est un loup pour l'homme. Et nous nous dévorons. L'ennemi n'aurait pu faire de plus grandes percées dans nos défenses. Quelqu'un qui guide un aveugle peut l'éviter, mais Job, découragé par le réconfort, savait que rien ne peut être si frustrant qu'un aveugle qui peut voir. Ô vivant qui êtes mort, qui êtes fier de ne pas voir, aux petites poussières de la terre, qui marchent avec tant d'arrogance, la confiance engendre le pouvoir et la foi, et chose affectueuse, nous jurons, nous faisons ce serment, au combat, c'est une promesse, nous ne haïrons jamais noir, blanc, rouge, jaune, juif, gentil, intouchable, nous ne sommes pas compétents pour prêter serment. Les mâchoires fixées, ils combattent, encore et toujours, d'aucuns que nous aimons et que nous connaissons, d'autres que nous aimons mais ne connaissons pas, afin que les cœurs puissent éprouver et n'être pas engourdis. Cela me guérit. Où suis-je, ce en quoi je ne puis croire? D'aucuns dans la neige, certains sur des à pic, d'autres dans les sables mouvants, petit à petit, beaucoup à beaucoup, ils combattent encore et toujours, afin que là où il y a eu la mort, il puisse y avoir la vie. Quand un homme est en proie à la colère, il est ébranlé par des choses extérieures. Quand il s'accroche fermement à la patience, 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 cette action ou beauté. La défense du soldat et l'armure la plus dure pour le combat. Le monde est un foyer d'orphelins. Connaît-on-nous jamais la paix sans le chagrin, sans appeler la mort à l'aide qui ne viendra pas? Ô forme quiète sur la poussière, je ne puis regarder, pourtant je le dois. Si ces grands mourants patients, patients, toutes ces agonies, ces blessures et ces carnages peuvent nous apprendre comment vivre. Ces morts ne furent pas vains. Cœur endurci par la haine, ô cœur de fer, le fer est fer, jusqu'à ce qu'il soit rouille. Il n'y eut jamais de guerre qui ne fût intime. Je dois combattre jusqu'à ce que j'ai conquis en moi ce qui provoque la guerre. Mais je n'y croirai pas. Je n'ai secrètement rien fait. Au crime digne d'Iscariote, la beauté est éternelle et la poussière ne dure qu'un temps. Et on va finir sur l'amour en Amérique. Quoi que ce soit, c'est une passion. Une démence bénigne qui devrait engloutir l'Amérique, nourrie d'une façon opposée à celle dont le Minotaure fut nourri. C'est un Midas de tendresse, venu du cœur, rien d'autre. D'un dont la capacité à endurer étant mal comprise, reçoit le blâme avec la noblesse qui est action, s'identifiant avec la minutie du pionnier. Sans cynisme, ni grandeur de superficialité recouverte et chétive. Quoi que ce soit sans affectation. Oui. Marianne Moore, Licornes et sabliers. C'est édité chez José Corti et c'est traduit par Thierry Gilleboeuf qui en fait également une magnifique présentation. Et ça vous coûtera 24 € à lire absolument cette grande voix de la poésie américaine, bon, qui réconcilie un petit peu avec l'idée que l'on peut se faire de l'Amérique et de la modernité quand même de la poésie américaine. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine, à Dicias.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Marche dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.